Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Nous en sommes dans la deuxième leçon sur l'Apocalypse. Alors nous avons vu que l'Apocalypse, je fais un bref résumé de ce que nous avons vu la dernière fois. L'Apocalypse est un mot grec qui veut dire qui vient du mot grec apocalypsis. Ça veut dire ni plus ni moins révélation ou dévoilement de quelque chose, une connaissance qui est là, mais Dieu enlève le voile à un moment. C'est-à-dire une connaissance de Dieu, mais au bout d'un moment, Dieu la révèle, la dévoile. À son initiative, en utilisant les instruments qu'il désire. Nous allons voir d'ailleurs ce que réellement veut dire et comment vient une révélation. On a vu que c'est le livre qui était le plus sujet aux commentaires et aux interprétations les plus folles qu'on peut voir de tous les livres de la Bible. Même les païens utilisent l'Apocalypse pour lui faire dire tout et n'importe quoi. Les religions, les sectes, toutes sortes de choses. Et ce livre va clôturer la révélation que Dieu voulait laisser aux hommes. C'est la fin de toute chose que Dieu a préparée pour vous et moi, qui l'aimons. Donc nous avions vu 10 choses que nous devons savoir quand nous étudions l'Apocalypse. D'abord, on a vu que c'était le livre de l'histoire finale du règne de Dieu sur sa propriété, la terre. On a vu que
ce
n'est pas un livre de catastrophe. L'objectif de l'Apocalypse, ce n'est pas de faire peur et d'expliquer des catastrophes. On a vu que Dieu va exercer ses jugements aussi. Il va y avoir confrontation de puissance. Particulièrement dans les temps de tribulation où nous ne serons plus là et j'expliquerai pourquoi. Nous avons vu que c'est une révélation de la gloire de Dieu comme il n'y en a jamais d'autre dans la Bible. On nous montre tellement de choses sur le ciel. Et nous étudierons ces révélations justement sur le ciel. Il faut faire attention que ce livre n'est pas chronologique, c'est-à-dire les visions qui sont données ne sont pas forcément une succession de choses qui vont se passer dans un ordre chronologique. On a vu aussi que ce livre est rempli de symboles, donc il faut faire attention, il ne faut pas les interpréter n'importe comment. Qu'il n'est pas là pour nous faire peur, nous les chrétiens, loin de là, mais au contraire, nous donner notre espérance. Ce livre nous montre en fait la gloire qui nous est réservée, la gloire à venir, afin que nous puissions être beaucoup plus efficaces dans notre témoignage envers les inconvertis. Quand tu comprends réellement la fin des temps, tu as une perspective sur l'éternité. Et tu ne pourras jamais vivre une vie réellement consacrée à Dieu si
tu n'as
pas une révélation au travers de la parole de Dieu sur l'éternité. Ce livre est clair aussi, il montre au pécheur qu'il doit se repentir, sinon il ira dans la mort éternelle. Nous parlerons de tout cela. le dixième point que nous avions vu aussi, c'est qu'il faut faire attention de ne pas spéculer par rapport aux choses qu'on voit sur la terre, les événements, les tsunamis, les catastrophes, etc. Ce n'est pas marqué dans l'Apocalypse. Donc on a vu que pour l'instant, le mauvais gestionnaire, c'est le diable qui est sur la terre. Je vous expliquerai ça à la lumière de la restauration et de l'instauration du royaume de Dieu. Et très souvent, malheureusement, les gens voient dans certains signes, à chaque fois qu'il y a une catastrophe sur la terre, on va dire « Ah, ça a été l'Apocalypse ». Ce livre ne décrit rien de ce que nous vivons actuellement au niveau des catastrophes, quelles qu'elles
soient.
Il y a un bon nombre de choses qui sont décrites dans l'Apocalypse où c'est Dieu qui envoie ses jugements et je vous dirai pourquoi et comment ça va se produire. Alors on a vu aussi que bien sûr c'est pas le seul livre qui parle de la fin des temps. Nous étudierons Daniel en parallèle. Particulièrement dans Daniel, on étudiera les 70 semaines d'années. Je vous montrerai ces fameuses 70 semaines d'années. On verra aussi bien sûr Matthieu, on verra aussi des textes dans les épîtres. Ensuite, nous avions vu le plan de l'Apocalypse. Je ne vais pas revenir dessus parce que ce serait trop long.
Et
nous allons directement commencer justement le premier verset de l'Apocalypse. Et on va lire du verset 1 au verset 3. Apocalypse 1, verset 1 au verset 3.
Et
il est dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné, verset 1, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, verset 2, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche.
Ngo uguhishura kwa Yesu Kristo uko yahawe n'Imana ngo yereke abagurano biwe ibigira bibeho vuba agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugurano wiwe Yohana yashingiye intahe ivyo yabonye byose nibyo jambo ry'Imana no gushinga intahe kwa Yesu Kristo hahigusoma hahigwa nabumva amajambo yuko kuvugishwa n'Imana bakitondera ibyanditswe muri yo kuko igihe kiri hafi.
Alors ça commence directement par le mot révélation.
Biza rero ku murongo wa mbere nyanuko itangura gusoma ubona ngo uguhishura.
Et nous avons déjà vu que le mot apocalypse veut dire révélation.
Twarasomye ko iryo jambo apocalypse risobanura ngo uguhishurwa.
Mais là j'aimerais vous montrer ce que c'est vraiment une révélation.
Nagomba kuvuga gato ku kintu cyitwa guhishurirwa.
Et j'aimerais que vous puissiez comprendre un certain nombre de choses.
Nagomba ngo ndabafasha gutahura ibitari bike.
Parce que vous savez il y a beaucoup de gens.
Kuko hari abantu benshi.
Ils disent on va prier et on va chercher des révélations.
Usanga avuga ati reka dusenge turondere guhishurirwa.
Ça fait plus de 30 ans que je suis sauvé.
Maze imyaka 30 nkijijwe.
Et j'ai vu pas mal de gens chercher Dieu pour recevoir des révélations.
Narabonye abantu batari bake barondera Imana bavuga ngo bariko barondera guhishurirwa.
Et vous savez, une révélation ne se cherche pas.
Kandi cyo nokubwira guhishurirwa ntikuronderwa.
Quand quelqu'un commence à chercher des révélations,
iyo umuntu atanguye kurondera guhishurirwa,
c'est extrêmement dangereux.
Ni ibintu bibi cyane.
Une révélation s'impose. Je vais vous le montrer dans l'écriture.
Guhishurirwa n'ikintu uhabwa ndabibe.
Nulle part la Bible nous dit d'aller chercher des révélations. La Bible nous dit de chercher Dieu et dans certains cas à son initiative selon sa souveraineté Dieu va nous donner des révélations ou pas. Ce n'est pas la même chose avec ce qu'on appelle l'inspiration. Mais d'abord nous allons regarder l'aspect des révélations. Si vous lisez le verset 10 du premier chapitre, vous verrez que Jean, verset 9, pardon, excusez-moi, verset 9, et après verset 10, on va commencer par verset 9, Jean décrit comment il a reçu cette révélation. Il est dit, moi votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Verset 10, je fus ravi en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, etc., etc.
Gojewe Yohana ku murongo w'icyenda mwene so musangiye amarushwa n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu nari ku kizinga pati mo co mu kiyaga bampora ijambo ry'Imana no gushingira intahe Yesu ku munsi w'Imana nari muri mpwemo numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iginzamba.
Est-ce que Jean était là à faire un jeûne de 21 jours en train de chercher des révélations?
Mbega urabona batubwira ngo yari ko arasenga iminsi 21 arondera guhishurirwa?
Absolument pas.
Ntaho babitubwira.
La Bible nous dit clairement, il était là sur l'île de Patmos, en fait, il était prisonnier.
Yari ngaho yari mbohe ku kizinga Patmo.
Il était prisonnier pour l'évangile de Christ.
Afunzwe kubera ubutumwa bwiza bwa Kristo.
Parce que Jean était beaucoup persécuté vers la fin de sa vie entre autres.
Kubera n'umuntu bahamye cyane mu mpera y'ubuzima bwiwe.
Il était là le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur dans la quand on recherche un petit peu certains textes, certains commentaires, en fait, c'était le dimanche.
Yari rero ku munsi wa Mungu.
Le jour de la résurrection.
Aho bavuga ngo ku munsi w'umwami ngo yari ko yari ngaho ku munsi w'umwami.
Nulle part, il est dit que Jean était en train de chercher Dieu en disant, tu sais Seigneur, je deviens vieux, j'ai presque 90 ans passés. J'ai vu beaucoup de problèmes là dans ton église en général, Seigneur. Surtout dans les 7 églises. Et alors, je veux que tu me donnes une révélation, je cherche une révélation. Non, nulle part. Mais je vais vous montrer d'autres textes. Il faut que vous compreniez que des choses comme ça se produisent. Là, c'est complètement unique pour l'Apocalypse, bien sûr. Mais les hommes et les femmes de Dieu qui ont reçu les visions n'ont jamais cherché ces visions. Les gens qui cherchent les visions et les révélations se trompent. Et j'en ai vu un paquet de gens comme ça à chercher des révélations et des visions. Et sortir avec les trucs les plus bizarroïdes. Votre vie chrétienne est un marathon. Ce n'est pas un sprint, ce n'est pas une course de 100 mètres. Donc vous avez plutôt intérêt à savoir comment le monde spirituel fonctionne. Parce que beaucoup de chrétiens aiment le Seigneur, mais certains deviennent des fanatiques bizarres. Tu ne cherches pas les révélations. Tu cherches la face de Dieu. Tu passes du temps avec lui. Et Dieu, dans sa souveraineté, se révélera d'une manière ou d'une autre à toi. Je vais vous donner un autre exemple. Si vous voulez mieux comprendre le monde de l'esprit, particulièrement l'onction et les visions, il y a un prophète de l'Ancien Testament qu'il faut étudier très sérieusement. C'est le prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel au chapitre 8, c'est juste un exemple que j'ai pris comme ça. Et là encore, il n'était pas en train de faire quelque chose de particulier quand ça va se produire dans sa vie. Vous savez, le Saint-Esprit tombe sur les gens qui ont soif. Pas des gens qui forcent des choses. Je vais vous donner un grand secret de sagesse. N'essayez pas de forcer les choses avec Dieu. Les gens qui essayent de forcer les choses de Dieu, ce sont des gens qui s'ouvrent à des esprits mauvais. Qu'on appelle des esprits familiers qui se font passer pour Dieu. Et ces gens-là, quelques années plus tard, vous les voyez complètement égarés alors qu'au début, ils marchaient avec Dieu. Je suis certain, alors que je suis en train de dire ça, vous avez vous-même dans vos mémoires des gens que vous connaissez, que vous avez vu marcher avec Dieu d'une façon particulière au début et qui se sont égarés dans des trucs bizarres parce qu'ils ont passé des soi-disant temps à chercher des révélations de Dieu. On ne joue pas avec le monde spirituel. Il y a des lois que Dieu a établi dans son royaume. Jean n'était pas en train de chercher une révélation. En train de supplier Dieu en disant, Dieu, je t'en prie, je veux une révélation sur la fin des temps. Il était simplement là. Et d'un seul coup, se trouvait dans l'esprit, comme nous verrons. Et Ézéchiel, ça va être la même chose. Il est dit au verset 1, il arrivait à la sixième année, le 5 du sixième mois, comme j'étais assis dans ma maison. Regardez, il n'est même pas dit qu'il était en train de prier. Il n'est même pas dit qu'il était en train de jeûner. Il était assis dans sa maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi. La main du Seigneur l'Éternel, c'est-à-dire la puissance de l'onction de Dieu, s'abattit sur moi. Et je regardais, voici une apparition qui avait l'aspect du feu, etc.
N'abakuru b'Iyudaya bicaye imbere yanje maze ukuboko k'umwami uhoraho kunsumirira hano nyene.
C'est venu à lui.
Urabona nuko byarizanye.
Pourquoi? Parce que Ézéchiel était quelqu'un qui marchait avec Dieu.
Ézéchiel era umuntu agendana n'Imana.
C'était un prophète de Dieu.
Yari umuvugishwa w'Imana.
Et là il explique comment ça s'est passé.
Ariko arasobanura ngaho ingene byagenze.
Il ne dit pas qu'il a passé 40 jours de jeûne et au bout d'un moment Dieu lui a donné une vision.
Navuze ngo yari mu minsi 40 yo kwisonzesha ngo hanyuma Imana iramwiyereka.
Non.
Oh yeah.
Cherchez Dieu.
Rondelimana.
Ne cherchez pas les révélations.
Nurondere
guhishurirwa. Ne cherchez pas les visions.
Nurondere kwerekwa.
Si vous faites ça, vous allez avoir des problèmes.
Ukoze gutyo hari ingorane
uzohura. Donc ici on voit encore un exemple. On voit Ézéchiel.
Urumva kana kandi karo tubona Ézéchiel.
Qui marchait avec Dieu.
Yagendana n'Imana.
Qui connaissait la présence de Dieu.
Azi ivyubwiza bw'Imana.
Et d'un seul coup le Saint-Esprit va le saisir.
Kanya gato mpwemu yera aramugendera.
Et il va se passer des choses incroyables. Verset 3, il étendit une forme de main et me saisit par une mèche de ma chevelure, imaginez-vous. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans les visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte,
etc.
Donc on voit très bien, le Saint-Esprit va le saisir.
Dans
Jean, ça va être la même chose.
Regardez
Acte 10.
Je
pourrais donner, vous donner preuve sur preuve à propos des révélations. Une vision ne se cherche pas. Une révélation ne se cherche pas. Cherche le Seigneur. Passe du temps avec lui. Passe du temps dans sa parole. Et si une révélation particulière vient, gloire à Dieu. Si elle ne vient pas, tu as sa parole pour être dirigé. Tu as le Saint-Esprit qui habite en toi. Et après, je vais expliquer ce que c'est qu'une inspiration. Dans Acte 10, nous voyons Pierre. C'est la vision de, comment dire, de la nappe qu'il va avoir. On connaît tous cette vision où il va avoir une nappe avec des animaux. Regardez verset 9, acte 10. Le lendemain, comme ils étaient sur la route, qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la sixième heure pour prier. Là, il est en train de prier. Il eut faim et voulut prendre de la nourriture. Donc, il n'était pas en train de jeûner spécialement. Il avait faim, il y avait des gens qui allaient lui préparer la nourriture. Pendant qu'on lui préparait, il eut une extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée, etc.
Bari hafi gushika mu gisagara, Petero yurira hejuru ku nzu gusenga, hari nk'isa zitandatu, yumva arashonje, agomba kujya, bakibirondera amera nk'urota, abona ijuru ryugurutse, maze hamanuka ikintu kimeze nk'uruhuzu, runini inya rufashwe ku mitwe ine kija hasi.
Juste pour vous dire, nous expliquerons les différents types de visions. Parce que Jean, dans l'Apocalypse, va avoir des visions. Et je vais vous montrer ce que l'Écriture dit à propos des visions. Parce qu'il est très important, frères et sœurs, quand vous recevez des choses, que vous soyez capable de prouver ces choses, c'est-à-dire d'éprouver ces choses, de faire passer un examen sur ce que vous avez reçu, vous pensez avoir reçu par rapport à la parole de Dieu. Tu ne peux pas accepter n'importe quoi que tu peux voir ou même entendre. Tu dois savoir discerner par rapport à la parole de Dieu. Donc on voit ici que Pierre était là. Il monte sur le toit de terrasse, c'était des toits plats. Il est là, en train, il se dit, je vais passer un moment de prière avant de déjeuner. Et d'un seul coup, ouf, il a une vision. Il n'était pas en train de chercher une vision. Il n'était pas en train de chercher une révélation. Parce qu'une révélation, écoutez bien ce que je vais vous dire, une révélation s'impose à Ça vient alors que tu ne t'y attends même pas. C'est Dieu qui va te parler par révélation alors que tu ne t'y attends pas spécialement. Je vous dis, nulle part nous avons un terrain scripturaire pour aller chercher les révélations ou les visions. Une révélation va s'imposer à toi.
Où
Dieu va te révéler sur une situation
des choses. Où
tu peux avoir une vision.
Où
Dieu peut te parler d'une façon différente avec une voix audible. Mais ce ne sont pas des choses que tu cherches. Tu ne cherches pas les voix. Les gens qui cherchent à écouter des voix, c'est dangereux. Un jour, j'ai dû délivrer un chrétien comme ça. Qui était tout le temps en train de dire « Le Saint-Esprit me dit, le Saint-Esprit me dit, le Saint-Esprit me parle, le Saint-Esprit me dit. Va à droite, va à gauche, va devant, arrête-toi. » Mais c'était faux. Et je lui dis, attention, c'est dangereux ici. Donc je tiens à vous prévenir parce que nous allons étudier des choses profondes dans le monde de l'esprit. Et ce que je veux, c'est que vous vous stabilisiez dans vos façons de penser et ce que vous croyez. Parce que la façon dont vous croyez les choses va affecter votre destinée. C'est pour ça que tout ce que vous recevez ou pensez recevoir du Seigneur, vous devez l'éprouver par rapport à l'Écriture. Revenons à notre premier verset. Révélation de Jésus-Christ que Dieu a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Alors, la Bible nous dit dans Amos 3, verset 7,
Amos 3, umurongo w'indwi,
la chose suivante.
Niho batubwira iki kintu.
Amos 3, verset 7 nous dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes.
Amos 3 umurongo w'indwi ngwerega umwami uhoraho ntazogira ica kora atabanje kwibira kabanga abasavyi biwe avugisha.
Alors ici dans ce cas de l'apocalypse,
muri bibero bijanye n'ivyahishura Yohana,
ce que Jean allait recevoir,
ibi Yohana yagira ahabwe,
allait devenir une partie intégrante de l'écriture.
Byagira bicike ibizokwandikwa mu ijambo ry'Imana.
Parce que nous allons voir que Dieu peut donner des révélations qui ne feront jamais partie de l'Écriture et que l'Écriture est complète, que personne ne peut venir aujourd'hui en disant ben, « Moi, voilà, Dieu m'est apparu. Voilà ce qu'il m'a dit. Un ange m'a ordonné de l'écrire. » Donc, il faut rajouter ça dans vos Bibles. Ça s'appelle la première épître de Steve. Si c'est ça, vous ne l'acceptez pas. D'accord, Steve.
Hein, tu peux.
Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est complète. Mais là, quand Jean va recevoir cette révélation, ça va compléter la parole de Dieu. Alors, j'aimerais faire une parenthèse sur ce qui est écrit et ce qui est notre parole, la parole que Dieu nous a donnée. Parce que ça, c'est très important. De faire la différence entre une révélation qui a été écrite et qui est donnée dans la parole de Dieu et une révélation qui peut être pour un temps particulier, pour une situation particulière, et qui ne fait pas partie de l'Écriture. Parce que entre temps, même les apôtres ont reçu un certain nombre de choses. Par exemple, Pierre a reçu la vision de la nappe qui descendait. Nous l'avons vu dans Acte 10. C'était une révélation. que Dieu voulait qu'il aille prêcher aux païens. Mais ce qu'il a reçu ce jour-là, ça ne fait pas partie de la troisième épître de Pierre. Parce que Dieu ne lui a pas dit d'écrire d'une façon particulière.
C'est
quelque chose qu'il a reçu, qu'il a appliqué dans sa vie, et il a vu le fruit de cette révélation. Donc ici, Jean va recevoir quelque chose, une révélation qui va clôturer l'Écriture. La Bible nous dit dans Éphésiens 2:20,
parce que
vous savez, c'est très important, l'Apocalypse a été sujette à certaines soi-disant révélations complémentaires de certains prophètes. Vous savez, l'Apocalypse de Jean n'est pas le seul écrit qui s'est appelé Apocalypse. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu des gens qui se sont introduits, qui ont écrit des choses qui étaient fausses. Et on a essayé d'introduire des livres avec leur nom. Comme d'ailleurs des évangiles.
Il y a un cours
que je donne à l'Institut biblique ici,
qui
s'appelle l'histoire de la Bible. Et il y a un certain nombre de livres que l'Église en général reconnaît comme étant ce qu'on appelle apocryphes, c'est-à-dire des livres qui ne sont pas d'inspiration divine. Donc des gens qui se sont permis d'écrire des choses en disant « Dieu m'a révélé ceci, Dieu m'a dit cela » et on a essayé de les insérer parmi des livres inspirés par Dieu. La Bible nous dit dans Éphésiens 2, verset 20 « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Donc, la parole de Dieu, et particulièrement le Nouveau Testament, repose sur l'écrit d'apôtres et de prophètes. Et un certain nombre d'apôtres étaient prophètes. Paul l'était. D'ailleurs, Paul va recevoir des révélations aussi, dont il écrira un certain nombre de choses dans ses épîtres, surtout sur le mystère de l'Église, de la dispensation de l'Église, d'ailleurs on va en parler, cette période particulière dans laquelle nous sommes, qui est une période prophétique. Et je vous expliquerai cette période prophétique qu'aucun prophète de l'Ancien Testament ne pouvait voir quand il prophétisait sur la fin des temps. Mais je vous expliquerai ça un peu plus tard parce qu'on va étudier petit à petit, au fur et à mesure. Donc, l'Apocalypse va faire partie de l'Écriture. Et la Bible nous donne quelques critères concernant les livres qui sont dans l'Écriture. Parce que comme je vous le disais, eh bien, il y a eu beaucoup de livres qui ont essayé de s'introduire dans l'Écriture. Au deuxième siècle après Jésus-Christ, tous les livres que nous avons dans le Nouveau Testament étaient réunis et on considérait que ça faisait partie des Écritures.
Mais
il y a eu plusieurs fois des attaques par rapport à l'intégrité de la parole de Dieu, c'est-à-dire être sûr que chaque livre que nous avons aujourd'hui dans nos mains c'était bien inspiré par Dieu. Donc Jean va recevoir l'autorité d'écrire. Et que ce message qu'il a reçu, que cela puisse faire partie des livres de la parole écrite de Dieu. L'Apocalypse va être l'accomplissement de ce que Dieu voulait nous laisser en tant qu'écrit sur sa révélation.
Et
ce que je vous dis là, c'est très important. Parce qu'il faut comprendre que cette parole, c'est de la dynamite spirituelle. Parce qu'à partir du moment où vous croyez ou nous croyons des choses qui ne seraient pas dans la parole de Dieu, cela n'a aucune autorité dans le monde spirituel. C'est ça qu'il faut comprendre avec la parole de Dieu. La parole de Dieu a une autorité dans le monde spirituel que la parole des hommes n'a pas. Que même une parole de Dieu appropriée pour un temps particulier n'a pas. Parce que Dieu a voulu que sa parole soit complète pour nous, c'est-à-dire que nous ayons la même parole chacun. Et c'est pour ça que Dieu a voulu clôturer sa parole par cet écrit de l'Apocalypse. Alors revenons à l'Apocalypse au chapitre 1. Et il est dit, donc on parlera bien sûr des anges, hein. Il a fait connaître donc ce qui doit arriver bientôt par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Je vous expliquerai aussi le monde angélique. Celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Alors là aussi, très souvent, quand des gens reçoivent des choses de Dieu, ils ne sont pas fidèles dans la façon dont ils restituent ce que le Seigneur leur a dit. Vous savez, Dieu n'a pas choisi n'importe qui pour écrire l'Écriture. Mais il devait avoir des gens fiables. C'est-à-dire des gens, des serviteurs qui devaient dire exactement ce qu'ils avaient reçu. Parce que c'est très facile de déraper dans les révélations. Beaucoup de gens dérapent quand ils reçoivent des choses de Dieu. Et c'est très mauvais. Dieu ne te fera pas confiance si tu commences à dire des choses qu'il ne t'a pas dites. Si il te dit des choses, tu dis ce qu'il t'a dit. Pas plus, pas moins. En étant sûr que c'est lui qui a bien dit les choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font parler Dieu. Jean ici nous dit clairement, ce que j'ai vu, je l'écris. Je suis témoin de cette révélation que j'ai reçue. Et je l'écris. Et ça, c'est très important. Dieu avait besoin de personnes. D'abord, qui avaient vu Jésus en chair et en os. Paul dans le Nouveau Testament sera le seul qui n'aura pas vu Jésus en chair et en os, parce qu'il a été un instrument particulier choisi à cette époque-là. Mais Dieu avait besoin de quelqu'un de fiable pour écrire chaque livre de sa parole, parce que chaque mot est important. Parce que c'est sa parole. Et quand tu connais cette parole, elle te donne la foi. Elle t'amène dans le ciel. Elle te donne exactement ce que Dieu a voulu dire. C'est pour ça qu'il fallait un témoin fidèle.
Et
évidemment, c'est ce qu'il a trouvé au travers de Jean par rapport à cette révélation de la fin des temps. Verset 3, il est dit: heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Alors ici, vous pouvez remarquer au verset 3, il est parlé de lire, d'écouter et de garder. Lire, écouter et garder.
Gusoma, kumva, kwitondera canke kuzigama.
Lire, écouter et garder.
Gusoma, kumva, no kuzigama.
Et ça, c'est très important.
Ikeneke no gihambaye rero.
La lecture t'amène une certaine connaissance.
Yuri kurasoma hari ubumenyi uronka.
Mais la connaissance ne te donne pas forcément une compréhension.
Ariko gusoma konyene canke ubumenyi uronka nibiguha gutahura.
Tu peux très bien lire.
Urashobora gusoma
mais ne pas comprendre.
Ariko ntiwumve.
Beaucoup de gens lisent les évangiles.
Hari abantu benshi basoma ubutumwa bwiza.
Ils ne sont pas sauvés.
Ariko ntibakizwe.
Certains sont même capables de vous citer des versets des évangiles.
Bamwe n'imirongo boyi gusomera kwipanze.
Et quand vous leur demandez leur témoignage,
ariko amubaza uti none wowe intaha yawe.
Ils sont incapables de vous dire le jour, la minute, la seconde où Jésus est entré dans leur cœur.
Ugasanga nashobora kukubwira umunsi igihe isaha Yesu yinjire mu mutima
wawe. Ils ont reçu Christ comme sauveur personnel.
Ntashobora kukubwira umunsi akire Yesu.
Ils sont incapables de vous parler d'une expérience personnelle, ils vous parlent d'église, ils vous parlent de baptême, ils vous parlent de Bible, ils vous parlent de prière.
Yo kubwira isengero, yo kubwira kubatizwa, yo kubwira gusenga, yo kubwira Bibiliya.
Mais ils ne vous parlent pas d'une expérience de rencontre personnelle qui a transformé leur vie. Donc on peut lire l'Écriture, mais ne pas la comprendre. Ne pas la comprendre. C'est-à-dire que ça ne descend pas dans notre cœur. Il y a beaucoup de gens, vous savez, qui peuvent même lire l'Apocalypse. Et ils ne verront pas de transformation, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ouvrent pas leur cœur. Il y a une compréhension de l'intellect, mais il y a une compréhension spirituelle. Dieu veut que tu acquières de la compréhension spirituelle. On verra que c'est un des rôles du ministère du Saint-Esprit dans nos vies. De pouvoir nous révéler la parole. C'est-à-dire que cette parole que nous lisons, parce que nous avons un cœur disposé, alors Dieu nous la révèle dans nos cœurs, nous la comprenons spirituellement. Ça s'appelle l'intelligence du royaume. Et quand tu commences à avoir de l'intelligence du royaume, tu commences à comprendre comment ça fonctionne. Et quand tu commences à comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne, c'est là où tu vois Dieu agir dans ta vie d'une façon incroyable. Tu comprends réellement les choses de Dieu. Parce que beaucoup de gens lisent mais ne comprennent pas. Beaucoup de gens vont dans les églises mais ne comprennent rien. Moi je rencontre des gens, on a l'impression que bon, c'est vrai, bon, ils sont sauvés, ils vont au ciel. Mais comme je le dis souvent, quand ils vont arriver au ciel, qu'ils vont quitter leur corps va mourir ici. Et qu'ils vont aller au troisième ciel, dans la présence de Dieu, ils vont avoir un choc culturel terrible. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de compréhension du royaume de Dieu. Ils sont là, ils prient, bon, c'est vrai. Ils essaient de faire ce qu'ils peuvent pour suivre Dieu. Ils vont dans les églises, ils lisent leur Bible. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de compréhension, d'intelligence du royaume. Ce livre est rempli d'intelligence du royaume. Ensuite, Jean nous dit garder. Garder. Et ça, c'est très important. Garder, c'est ne pas changer ce qui est écrit. Ne pas changer la révélation. Tu es là et tu te tiens, tu dis non, non, Dieu a dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Jésus dira dans Jean chapitre 14. Jean 14. Au verset 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements.
14:15.
Vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez. La mesure de ton amour pour Dieu, c'est de voir comment tu gardes sa parole. Tu ne changes pas sa parole. Et que tu veux appliquer sa parole dans ta vie. Sans te trouver des excuses. Sans dire Dieu m'a dit et ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Parce que si Dieu te parle, ça doit être conforme à sa parole. Jean 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour, que je demeure dans son amour.
muzoguma mu rukundo rwanje nkuko nanje nitondeye byagezwe bya data nkaguma mu rukundo rwiwe.
Donc pour revenir à l'Apocalypse,
ngarutse rero mu byahishuro Yohana.
Jean éclaire tout de suite.
Yohana aratomora ningoga.
Verset 3, il dit bien heureux celui qui lit celui qui écoute les paroles de la prophétie et les garde.
Et
garde ce qui s'y trouve écrit. Donc ces trois choses, lire, écouter dans le sens de comprendre et garder. À partir du moment où tu gardes ces choses, en les ayant lues et comprises, la Bible te dit que tu es heureux. Ça veut dire que tu es dans un état où Dieu te veut, où tu vas voir les choses extraordinaires de Dieu. Et c'est ça sa parole. Sa parole, ce n'est pas juste un livre qu'on emmène à l'église. C'est une révélation sur qui est Dieu. Quelle est notre espérance? Qu'est-ce que c'est que la fin des temps? Comment on doit se comporter sur cette terre? Qu'est-ce qui nous attend dans le ciel? Etc. Comment vivre le royaume ici? Et comment le royaume de Dieu se manifestera pour l'éternité? Ensuite, il va dire les paroles de la prophétie. Alors une prophétie, ça peut avoir ce qu'on appelle deux incidences, c'est-à-dire deux
côtés.
Qu'est-ce que c'est qu'une prophétie? En fait, prophétiser dans le Nouveau Testament, c'est être le porte-parole. C'est être un porte-parole. Un porte-parole, ça fait quoi? C'est envoyé par une organisation, ça peut être un gouvernement. Par exemple, le porte-parole du gouvernement, qu'est-ce qu'il fait?
Bah,
il rapporte un texte que le gouvernement lui demande d'apporter au public. C'est tout ce qu'il fait. Il peut pas se permettre de mettre le porte-parole du gouvernement ne peut pas se permettre de mettre des commentaires sur ce qu'on lui a donné de lire. Sinon, on va lui dire, monsieur le porte-parole, là, tu fais pas ton job. Ton job, c'est seulement de rapporter et de dire publiquement les paroles que nous t'avons demandé de dire. Et prophétiser, c'est tout, c'est faire cela, c'est être un canal. La Bible, dans le Nouveau Testament, nous parle de deux types de prophéties. Parce que là, il est parlé de la prophétie. Le premier type de prophétie, c'est ce qu'on appelle la simple prophétie. C'est parler sous l'inspiration de Dieu. Ça fait partie des dons du Saint-Esprit. Et dans la simple prophétie, il n'y a pas de révélation. C'est ce qu'on trouve d'ailleurs dans 1 Corinthiens 14, verset
3,
où Dieu nous donne la définition quasiment de ce qu'est une prophétie. Il est dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Et la Bible nous dit qu'à partir du moment où nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous pouvons manifester les dons du Saint-Esprit. Et dans les 9 dons du Saint-Esprit, il y a un don qui s'appelle la prophétie. Et c'est ce qu'on appelle la simple prophétie. C'est-à-dire édification, exhortation, consolation. Je
ne
vais pas vous faire un enseignement sur la prophétie, ça serait trop long. Mais simplement, la simple prophétie n'a pas d'élément de révélation. Très souvent, quand une personne a une prophétie simple, une simple prophétie, le Saint-Esprit va lui mettre un verset biblique dans son esprit adapté à une situation qui va exhorter la personne, qui va la consoler ou qui va l'éclairer par rapport à cette vérité de ce verset biblique.
akamuremesha cyanke akamumurikira bihwanye n'ukuri kuri muri ayo majambo yaronse
mu mutima. Je t'ai racheté.
Ntutinye naragucunguye.
Je t'aime d'un amour éternel etc.
Ndagukunda urukundo ruzokwamaho
n'ibindi. C'est la simple prophétie.
Ugasanga n'Imana itanze ayo majambo.
Par contre, il y a des prophéties dans lesquelles il y a un élément de révélation.
Ariko iruhande y'ubwo buvugishwa busanzwe hari ubundi usanga burimo guhishurirwa.
Et là, très souvent, pas toujours, mais il y a des éléments de révélation sur le futur. Ça peut être des prophéties de prédiction, ce qu'on appelle. Et il y a, par exemple, des prophéties qui sont données, qui sont ni plus ni moins des prophéties qui vont prédire l'avenir, qui sont conditionnelles, et qui sont souvent données par les ministères de prophètes, ou un certain nombre de ministères qui marchent dans des onctions très fortes. Là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. Comment reconnaître une vraie prophétie, mais ça c'est un autre sujet.
Mais
il y a des gens qui reçoivent ce genre de révélation
et
qui les donnent par prophétie, mais qui ne font pas partie de l'écriture. Ici, quand Jean nous parle de cette prophétie, c'est une prédiction qui fait partie de l'écriture. Donc il y a une autorité suprême. Une autorité suprême. Ça c'est quelque chose qui est très important aussi à comprendre. Donc Dieu ici a transmis des prédictions et des révélations d'une manière générale à Jean. Et en fait, ces prédictions, Dieu lui a dit de les écrire. Donc ce sont des prédictions qui font partie de l'écriture. Mais dans l'écriture, vous remarquerez qu'il y a un certain nombre de prédictions, donc de prophéties. Et quand vous regardez par exemple les prophètes de l'Ancien Testament, ils donnaient beaucoup de prédictions. Il y a par exemple des prophéties messianiques. Mais il y avait aussi des prophéties pour les temps dans lesquels ils vivaient. Des choses qui allaient se produire dans le futur. Et très souvent, vous remarquerez que ces prédictions qui allaient se produire donc dans le futur étaient souvent conditionnelles. Dieu, par exemple, disait à certains prophètes, ainsi parle l'Éternel. Tu diras à mon peuple que je vais envoyer tel et tel jugement, c'est l'Ancien Testament. Mais souvent, Dieu mettait des conditions. S'ils se repentent, par contre, eh bien, ce jugement ne viendra pas contre eux. Et des fois, Dieu ne leur disait même pas de se repentir, mais ils se repentaient et le jugement ne venait pas sur eux. Ou des choses que Dieu leur promettait, mais avec la condition de l'obéissance. Donc c'était des prophéties souvent conditionnelles. Les seules prophéties qui n'ont jamais été conditionnelles, ce sont des prophéties messianiques et sur la fin des temps. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament et le Nouveau, toutes prophéties qui ont été données, que ce soit pour l'Ancien Testament sur les prophéties sur le Messie, c'est-à-dire des prophéties messianiques, ou alors des prophéties sur toutes les prophéties messianiques et sur la fin des temps, elles ne sont pas conditionnelles. Il
n'y
a pas de condition dessus. Ça veut dire qu'il y a un aspect de la souveraineté de Dieu. Et là, ça va m'amener sur un sujet que les chrétiens ont du mal à comprendre aussi. C'est la volonté de Dieu. Alors, dans la volonté de Dieu, il y a un certain nombre de choses que les chrétiens ont du mal à comprendre. Parce que quand on parle de prophétie ici dans le livre de l'Apocalypse, ce sont des prédictions où Dieu a dit, voilà ce qui va se produire. Je vous rappelle que dans l'Apocalypse, il n'y a pas que du futur, mais il y a une grande partie du futur. Dans l'Apocalypse, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, il y a des révélations sur le passé que Jean va recevoir à l'époque où il la reçoit. Sur aussi le présent, par exemple les sept églises, nous le verrons. Mais aussi des révélations sur le futur. Donc Dieu, sur les révélations sur le futur, va manifester une volonté souveraine. Alors il y a trois groupes dans la volonté de Dieu. D'abord, il y a la volonté désirée de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu veut en général. Par exemple, dans sa parole, il nous dit que c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que tous les hommes sont sauvés? Non. Pourtant, c'est sa volonté, c'est son désir. Son désir d'amour, c'est que chaque être humain qui vient sur cette terre puisse le rencontrer, puisse s'épanouir et aller avec lui dans l'éternité. Son désir, c'est d'accomplir sa destinée dans ta vie. Mais là, il va y avoir la volonté de l'homme qui va rentrer en jeu. Par exemple, pour le salut, on ne peut pas forcer quelqu'un à être sauvé. Pourtant, c'est le désir de Dieu, la volonté de Dieu, c'est qu'il soit sauvé. Maintenant, est-ce que cette personne va rentrer dans le salut? Ça va être son choix. Donc, Dieu veut certaines choses pour les hommes. Dieu veut les hommes que les hommes soient heureux. Il veut qu'ils soient prospères à tous égards. Il veut qu'ils soient en bonne santé. Il veut qu'ils aient de bonnes relations. Il veut beaucoup de choses excellentes. Ça, c'est le désir de Dieu pour l'homme. Il a révélé dans sa parole. Maintenant, il y a aussi la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils prient, et de toute façon, si Dieu le permet, il se passera ça dans ma vie. C'est pas comme ça que ça marche du tout. Parce que la volonté permissive de Dieu va dépendre de ton obéissance. Dieu peut te parler spécifiquement sur quelque chose et tu peux ne pas être à ta place. Vous
voulez
un exemple? Jonas. L'histoire de Jonas. Jonas, il était dans la volonté permissive de Dieu quand il a fui l'appel de Dieu. Il s'est retrouvé vraiment dans des ennuis. Parce que quand vous êtes dans la volonté permissive de Dieu, vous ne pourrez pas voir la main de Dieu vous bénir pleinement. Quand tu n'es pas au bon moment, à la bonne place, à faire la bonne chose, Dieu ne pourra pas te bénir pleinement. Par exemple, je vois beaucoup de gens qui entrent dans le ministère. J'en parlais encore aujourd'hui avec quelqu'un qui n'est pas ici mais qui habite au Canada. Et on se faisait la réflexion sur quelqu'un qu'on connaît qui est pasteur. Dans un pays très lointain. Pas ici. Et en fait, on voyait bien que ce pasteur, ce couple de pasteurs, qui sont des gens vraiment gentils. Ils ont une église dans un pays d'Europe. Mais bon, l'église est pas mal, mais on sent que c'est pas la pleine bénédiction de Dieu.
Et je faisais
cette réflexion, je lui disais, je crois que ce frère-là, il aurait été très bien dans une grosse église à servir le Seigneur dans certains départements. C'est un homme avec sa femme qui sont très doués dans certains domaines de l'église. Mais pour être pasteur, on sent, ils ont plus entre 200 et 300 personnes,
mais
on
ne
sent pas que l'église prospère.
Ça
fait des années qu'ils travaillent dur et on sent qu'il manque quelque chose et on sent qu'ils sont dans une volonté permissive.
Vous
savez, vous pouvez être parfois en train de faire des choses dites de Dieu et être dans une volonté permissive, et souvent les gens ont du mal à accepter ça. Quand Dieu est vraiment là où vous voulez qu'il soit, qu'il vous veut, que vous êtes pleinement au centre de sa volonté, donc ça va dépendre de votre obéissance,
et
bien là vraiment vous voyez l'épanouissement. Je
ne
dis pas que c'est facile, il y aura des défis de foi, il y aura des moments difficiles, mais quand vous persévérez et que vous êtes au bon moment, au bon endroit à faire la bonne chose, obligatoirement il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. C'est obligatoire, la bénédiction de Dieu ne fera que de vous atteindre, elle ne pourra que percer dans votre vie. Je
ne
vous dis pas que ça se passera du jour au lendemain, mais c'est obligatoire. Ensuite, il y a la volonté souveraine de Dieu. Et la volonté souveraine de Dieu ne dépend pas des hommes. Elle dépend uniquement de la souveraineté de Dieu. Et c'est exactement ce qui est manifesté dans l'Apocalypse. L'Apocalypse nous montre clairement la planification de la fin de l'histoire de l'humanité. Par Dieu, c'est irrévocable. Aucune volonté humaine ne pourra interférer avec ça. C'est programmé d'avance. C'est minuté d'avance. Rien n'y changera. Dieu a donné cette révélation et ça se passera tel quel. Parce que ça, c'est la volonté souveraine de Dieu qui s'accomplira ici. Et c'est différent de la volonté permissive de Dieu ou de la volonté désirée de Dieu pour les hommes. Ça, c'est souverain. Quand il est parlé de souveraineté de Dieu, c'est Dieu qui agit lui-même par rapport à ce qu'il a prédit. Ça veut dire que tout ce qui est marqué dans ce livre de l'Apocalypse, c'est quelque chose qui va se passer sans appel. C'est une prophétie de prédiction dans laquelle Dieu est souverain à 100%. Ça ne dépendra absolument pas des prières des hommes, l'église est en plein réveil ou pas, ou si rien ne va dans l'église. Non, ça dépend uniquement de la souveraineté de Dieu. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il va le dire à la fin du verset 3, car le temps est proche. Car le temps est proche. Et là, nous allons voir un texte dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 10. 2 Pierre 3, 1 à 10. Parce que Pierre va nous montrer un certain nombre de choses à propos du temps selon Dieu. Regardez ce que Pierre nous dit ici. Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre, c'est-à-dire la deuxième épître de Pierre, donc, que je vous écris. Et dans l'une et l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Verset 2. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance. Ah, regardez bien. Les choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur. Afin que vous enseignés par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement, c'est-à-dire de son retour. Nous parlerons des deux retours de Christ. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ça veut dire qu'on n'a rien vu encore. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu et même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Verset 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Verset 8. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et finalement, verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. On peut lire le verset 8 en Kirundi, s'il vous
plaît.
Alors, quand on lit le temps est proche, on se dit, mais quand même, Jean, ça fait un peu plus de 1900 ans, puisque c'est à la fin du 1er siècle, vers l'an 95, qu'il va écrire cette prophétie. Ça fait 1900 ans. Je vous montrerai comment Dieu est en train de remplir le royaume. L'Apocalypse nous montre l'histoire du royaume de Dieu. De la restauration jusqu'à son instauration, c'est-à-dire son installation. Et nous verrons que Dieu va faire ça par des étapes. Aujourd'hui, l'Église et l'Évangile de Christ, c'est une étape dans laquelle nous sommes. Une étape de la restauration. Nous verrons que quand Jésus va venir chercher son Église, c'est-à-dire lors de son premier retour, ce qui va se produire, c'est que là, tous les événements que nous allons lire dans l'Apocalypse vont se mettre en place à ce moment-là. Minutés telles que c'est dans l'Apocalypse. Dieu va nous donner des dates précises, des moments précis, des années précises sur les événements, avec des événements marquants pour ces périodes. C'est ce qui est très intéressant dans l'Apocalypse. Par contre, tout ce qui va déclencher cela, c'est le premier retour de Jésus, ça sera l'enlèvement. Et dans Marc chapitre 13, Jésus va nous révéler une chose. Quelque chose qui est très important à propos justement de la fin des temps. Et Jésus va conclure au verset 32. Il va dire, donc Marc 13, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, même pas les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. »
Et
ce qui est très intéressant, c'est que Jésus, après, à partir du verset 33, il va donner un avertissement à son peuple qui ressemble très fortement aux avertissements que Jean va nous donner dans l'Apocalypse. Il va dire, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Verset 34. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage. Mais qui est donc cet homme qui est parti pour un voyage? Bien sûr, c'est Jésus qui est reparti au ciel. Laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs. Qui sont ses serviteurs? Nous, frères et sœurs, l'Église, son Église. Indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Verset 35, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq ou le matin. Verset 36, craignez donc qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Donc Jésus ici va nous donner un avertissement. Mais qui ressemble très fortement à ce que Jean va nous dire dans l'Apocalypse. Et ce que Pierre nous a dit précédemment. Il dit qu'il va y avoir un moment où il va revenir. Le maître de la maison qui est parti pour un voyage, qui a donné ses ordres à ses serviteurs, qui a donné à chacun sa tâche, il va revenir. Quand est-ce qu'il va revenir? On ne sait pas. C'est pour ça d'ailleurs que je vous mettrai en garde avec toutes les fausses prophéties.
Et
je vous raconterai d'ailleurs des choses assez rigolotes, marrantes, à propos de gens qui ont prophétisé souvent le retour de Jésus, la date du retour. Et régulièrement, l'Église s'est fait rouler avec ces gens-là. Pourtant, Jésus est clair. Personne ne le sait. Par contre, attention. Pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour, c'est comme 1000 ans. Donc, l'idée toujours, c'est quoi? C'est que l'Église soit prête. Parce qu'il peut revenir à n'importe quel moment. Maintenant, nous verrons qu'il y a quand même un certain nombre de signes qu'on appelle précurseurs, c'est-à-dire des signes qui vont montrer qu'il y a quelque chose qui se prépare. Ça, c'est très intéressant, par contre. Mais les signes qui se préparent n'impliquent pas de connaître une date par une soi-disant révélation. Non, la Bible est très claire. Ce jour et cette heure, seulement le Père connaît ces choses. Il y a un moment, nous le verrons, Jésus reviendra au signal d'un archange, au son de la trompette, nous dit la parole de Dieu, la trompette céleste. À ce moment-là, Jésus viendra prendre son Église et enlever son Église. Et à ce moment-là, tous les événements prophétiques sont minutés. On sait exactement ce qui va se produire. Par contre, entre la période où Jésus est ressuscité et qu'il est retourné au ciel, jusqu'au moment où il va venir chercher son Église, c'est ce qu'on appellera la dispensation, c'est-à-dire le temps de l'Église. Je vous montrerai que ça s'est appelé aussi dans l'Écriture la dispensation du mystère, je vous expliquerai pourquoi. C'est un mystère caché de toute éternité. Et bien à ce moment-là, Jésus viendra chercher son Église et tout se mettra en place. Venons au verset 4 du chapitre 1. La Bible va nous, de l'Apocalypse, donc, la Bible va continuer à nous dire un certain nombre de choses. Il est dit au verset 4, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était, qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre.
Gojewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu mashengero ndwiye muri Aziya ubuntu bibe muri mwebwe n'amahoro biva kuri yo iriho kandi yamyeho kandi girize biva no kuri mpwemu kuri no ku mpwemu ndwi ziri imbere y'intebe yayo.
Alors là on va s'intéresser un petit peu à ces fameuses 7 églises d'Asie.
Aha rero reka turabe ahantu bavuga ngo amashengero ndwiye muri Aziya.
Et je vous ai préparé quelque chose, donc des plans pour vous montrer un petit peu où c'était. Parce que très souvent, les chrétiens, nous lisons des choses, mais la géographie ne nous dit pas énormément. Et donc, j'ai quand même fait quelques petites recherches pour vous montrer un petit peu ces différents plans. Donc, on peut revenir un peu plus haut. Donc, je vous ai fait une première carte, où évidemment, on voit l'Afrique en bas et l'Europe en haut. Et là, on va grossir un peu plus et on va regarder du côté de l'Europe. Donc en fait, ces fameuses 7 églises vont se retrouver en Europe de l'Est, Là où vous avez le gros cercle, il y a marqué la Turquie, parce que c'est la Turquie actuelle. Les sept églises dont il va être parlé dans l'Apocalypse se trouvent dans la Turquie, en Turquie, dans l'ouest de la Turquie. On va grossir encore. En fait, ici, c'est la Turquie. Juste à gauche, en bas, vous avez la Grèce. Et il va y avoir les sept églises qui vont se trouver ici dans ce qu'on appelle l'Asie mineure, qui était une province, qui est une province de la Turquie, pardon.
Et
en fait, c'est dans cette province d'Asie mineure où Jean va recevoir des révélations sur sept églises. On verra ce message aux sept églises, qui est aussi un message qui était d'une part pour les églises existantes, mais aussi qui a une portée prophétique pour nous. Et on verra que chaque église décrive un état des chrétiens. Certains en ont vu, je dirais, des périodes de l'église, cette période de l'histoire de l'église. Je
ne
suis pas trop d'accord avec ça, bien que ça nous parle à nous. Mais je suis très prudent par rapport à cela. Je crois qu'il y a encore quelque chose de plus grossier. Voilà. Donc c'est sept églises, vous voyez, et ça partira d'Éphèse, ça ira à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à
Laodicée.
Et en fait, ça va faire comme un tour en partant d'Éphèse, ça va monter comme ça, Smyrne, Pergame, voilà, comme c'est indiqué ici, l'itinéraire des sept églises, 1, 2, 3, 4, etc., etc. Donc, jusqu'à 7. Et nous verrons comment Jésus va adresser un message à chacune de ces sept églises. Les exhortations aussi. Les points forts et les points faibles. Ce qui va nous aider aussi à comprendre comment nous devons nous comporter en tant qu'église locale. Pour connaître nos points forts et aussi connaître nos points faibles. Bien que c'est une portée très prophétique. Donc cet endroit, donc Asie mineure, c'est la Turquie, c'est l'ouest de la Turquie. Et nous reviendrons sur chaque église et avec évidemment une des cartes ici qui nous permettra de mieux comprendre où ça se situe. Si vous cherchez les villes avec ces noms-là directement, vous allez avoir du mal parce que les musulmans ont envahi la Turquie quelques siècles après Jésus. Et quasiment toutes les villes ont eu leur nom transformé. Un certain nombre de ces villes n'existent plus aujourd'hui, il n'y a que des vestiges. Donc des vieux temples, des vieux marchés, etc. Mais très souvent, il y a des villes qui ont été construites après, qui sont existantes aujourd'hui, qui n'ont plus rien à voir avec le nom. Alors revenons à notre verset 4 où il est dit Jean aux sept églises qui sont en Asie. Donc je vous dis, on va étudier le message aux sept églises après, c'est chapitre 2 et chapitre 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Ici, on va voir qu'il y a la Trinité qui est mentionnée.
Gujewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu mashengero ndwi yo muri Aziya ubuntu bibe muri mwebwe n'amahoro biva kuri yo iriho kandi yamyeho kandi girize biva no kumpwe mu ndwi ziri imbere y'intebe yayo aha turabona ko n'ubutatu buri ko buravugwa.
Et la Trinité est une doctrine très importante dans la parole de Dieu.
Ubutatu bw'Imana ni icigwa gikomeye cyane mu ijambo ry'Imana.
Où il faut bien comprendre le rôle du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Aho dusabwa kumenya igikorwa cha
Et je rencontre pas mal de chrétiens qui ont des confusions par rapport à cela. Quand vous ne comprenez pas bien la Trinité, vous retrouvez finalement avec une vie de prière où c'est la confusion.
Ou
vous
ne
comprenez pas que vous avez un Père Céleste qui vous aime.
Vous
ne comprenez pas le rôle de Jésus dans le ciel. Et vous avez du mal à comprendre le rôle du Saint-Esprit dans votre vie. Ici, la Trinité est mentionnée. Il nous est parlé, justement, on va remonter au verset 4, s'il vous plaît, merci, de la part de celui qui était, qui est et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ. Donc on voit bien que le premier dont on parle, c'est le Père.
Ngo biva ngo kuri yo iriho kandi yamyaho kandi girize biva no kumpwe mu ndwi ziri imbere y'intebe yayo no kuri Yesu Kristo wa mbere avugwa ni data.
Et dans la Trinité, Dieu est un seul Dieu. D'ailleurs, c'est révélé dans le premier verset de la Genèse. Nous adorons un Dieu, mais révélé en trois personnes. Et beaucoup de gens ont des problèmes. Parce qu'ils disent, mais non, alors, s'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a trois dieux. Non, la Bible nous dit clairement qu'il y a un seul Dieu, mais qui est révélé en trois personnes. C'est un peu comme une équipe. Par exemple, si vous avez une équipe de football, on va prendre les Congolais, le tout-puissant Mazembe. Eh bien, c'est une équipe. Mais cette équipe est constituée de joueurs. Et chaque joueur a son rôle. Si, par exemple, le goal est en train de courir pour aller chercher le ballon de l'autre côté du terrain adverse et essayer de marquer un but, c'est dangereux. Il sort de son rôle. Il est là, il est gardien, normalement il doit rester dans ses buts. Il est là pour faire attention que n'importe qui voudrait tirer et marquer un but, empêcher le ballon de rentrer. Donc quand vous avez une équipe de football, vous avez chaque joueur qui a son rôle particulier. Mais on va parler de l'équipe. On va dire l'équipe a gagné. Ou l'équipe a perdu. Ou l'équipe se déplace. Ou l'équipe s'entraîne. Donc on parle de l'équipe qui est constituée de joueurs. Et avec Dieu, c'est comme ça que ça marche. Il y a un seul Dieu révélé en trois personnes. Le Père, c'est lui qui prend. Qui planifie toutes les choses. Il a planifié la création des cieux et de la terre. Il a planifié comment les hommes allaient être rachetés. Il a planifié la fin des temps. Tout est planifié par le Père. Le Père, c'est l'architecte. C'est lui qui dessine tous les plans. De tout ce que Dieu veut faire, le Père décide tous les plans. Le Fils va exécuter. Dans la création des cieux et de la terre, le Fils exécute.
Tout.
Il est là et il exécute le plan du Père. Dans la croix, c'est le Fils qui a exécuté. Selon la volonté du Père. Jésus s'est fait homme selon la volonté planifiée par le Père. Jésus s'est donné à la croix et a été fait malédiction selon la volonté du Père pour nous racheter, pour que nous puissions être
bénis.
Le Fils a exécuté parfaitement le plan du Père. Dans la fin des temps, le Fils va être l'acteur principal de l'exécution de l'instauration du royaume de Dieu. Je vais vous montrer la révélation de l'instauration du royaume. Parce que je vais vous dire une chose, vous serez une part dedans. Dans les événements prophétiques, vous serez là. Je vais vous montrer temps, tous les événements dans lesquels vous serez là. Vous serez là régulièrement, vous ne pourrez pas dire « Non, tu sais Seigneur, moi ça ne m'intéresse pas.
Hein. »
Non, non, tu seras embarqué avec tout le monde et tu seras heureux d'ailleurs de le faire. Avec Jésus à la tête. Avec Jésus à la tête. C'est lui qui va exécuter et on sera juste avec lui. On sera là pour combattre toutes les armées qui auront voulu détruire Israël et écraser l'Antichrist. On sera là pour régner avec lui dans le millénium. On sera là quand il aura recréé la surface de la terre. Je vais vous montrer un nouveau ciel et une nouvelle terre, ce que ça veut dire réellement dans le grec. On sera là avec lui pour régner pour l'éternité. Donc vous avez un rôle actif. Mais je vous montrerai aussi une chose. C'est qu'il y a des positions dans le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, ce que tu vas faire avec ta vie sur la terre, de ça, ton obéissance à Dieu, va dépendre ta position dans le royaume futur. Le salut est gratuit. Mais je vous montrerai qu'il y a un moment où nous allons passer devant le tribunal des récompenses. Et ce que tu auras fait dans ton corps, Dieu y mettra le feu divin. Mais ce qui restera, c'est ce que tu auras fait quand tu auras obéi au Seigneur. Et c'est ça qui te donnera ta position dans le royaume futur. Nous allons étudier des choses très intéressantes. C'est pour ça que je vous dis, venez régulièrement tous les jeudis parce que je vais augmenter la connaissance. Et je suis obligé d'abord, dans les premières séances, de poser les fondations. Ce qui va petit à petit vous construire. Et vous donner une assurance dans votre espérance. Parce que je veux que vous compreniez. Et c'est ma responsabilité en tant qu'enseignant de la parole. De vous aider à comprendre l'éternité. Parce que quand tu comprends bien l'éternité, tu es capable d'être efficace dans ce monde. Tu ne perdras pas ton temps. Parce que beaucoup de chrétiens se lèvent le matin et ne savent même pas ce qu'ils vont faire dans la journée. Ils se sentent inutiles et ils sont inutiles. Parce qu'ils ne sont pas motivés. Et si tu n'es pas motivé, c'est parce que tu ne comprends pas réellement ce pourquoi Dieu t'a sauvé. Dieu ne t'a pas sauvé pour aller chauffer une chaise d'église. Dieu t'a sauvé pour avoir vraiment un rôle dans son royaume. Il y a un temps où tu dois t'asseoir. Il y a un temps où tu dois œuvrer pour lui selon ce qu'il va te demander et être efficace pour son royaume. Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Je prie pour que ce peuple sois enflammé pour toi, Seigneur. Qu'ils comprennent cette éternité. Qu'ils puissent comprendre le monde spirituel. Ton royaume, Seigneur. Et qu'ils puissent vraiment marcher dans les réalités et les lois du royaume. Que vraiment ton royaume soit révélé à ce peuple. Afin qu'il marche à la lumière de la puissance de ce royaume. Dans le nom précieux de Jésus. Amen.
Amen.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.